rapporteur du Monde, Anthony Bélanger, vous nous emmenez en Russie pour une grosse bévue d'un tribunal local.
Alors ça, c'est une énorme bévue de celles qui coûtent très cher à ceux qui les laissent passer. On ne plaisante pas en Russie avec les mensonges d'État. Alors je m'explique. Hier, un tribunal de Rostov-sur-le-Don, une ville près de la frontière ukrainienne, publiait sur son site un bête jugement. Il s'agit d'un banal procès en corruption d'un certain Zoubalouev qui, dans son témoignage, admet avoir payé près d'un million de roubles, environ 12 000 euros, pour, comme disait l'autre, fluidifier les relations sociales et permettre à son petit commerce de prospérer. Mais le jugement va plus loin. Il décrit ce petit commerce prospère. Zoubalouev devait livrer toutes les deux semaines 70 camions de victuailles à destination des soldats de l'armée russe, je cite, stationnés dans les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. Pour mémoire, les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk sont ces territoires à l'indépendance autoproclamée qui, en 2014, ont fait sécession de l'Ukraine. C'est ce fameux Donbass disputé entre des soi-disant indépendantistes pro-russes et Kiev.
Et en quoi le texte de ce jugement est-il problématique?
Eh bien, depuis 2014, Moscou a toujours nié que des troupes de l'armée russe soient casernées dans le Donbass ukrainien. Ce qu'a toujours dit Moscou, c'est que si les Russes se battaient là-bas, c'était sur la base du volontariat et sans soutien ni officieux ni officiel de Moscou. À l'inverse, l'Occident a toujours expliqué que la Russie avait des soldats réguliers sur place et fournissait les autorités autres pro-russes du Donbass en armement et matériel. C'est exactement ce que ce jugement de ce petit tribunal provincial de Rostov-sur-le-Don vient de confirmer d'une ligne. Alors l'OTAN a même pu faire quelques petits calculs simples. 70 camions toutes les deux semaines, c'est 1300 tonnes de victuailles. C'est donc assez pour nourrir environ 26 000 soldats russes. Ça mange beaucoup, un soldat russe est connu.
Est-ce que les autorités russes ont réagi?
Immédiatement, le Kremlin s'est fendu d'un communiqué pour expliquer que ce jugement était erroné et pour maintenir la fiction de l'absence des troupes russes dans le Donbass. De plus, depuis hier soir, évidemment, le jugement a disparu du site du tribunal de Rostov. Mais voilà, le mal est fait, même s'il est d'ailleurs largement symbolique. Reste que cette histoire tombe au plus mauvais moment pour Moscou, qui a, selon les Américains, massé une centaine de milliers de soldats à la frontière ukrainienne. Avec cette question qui est sur toutes les lèvres, Vladimir Poutine prépare-t-il une nouvelle invasion de son voisin ukrainien, après celle de 2014, qui avait abouti à l'annexion de la Crimée et à une série de sanctions économiques occidentales contre Moscou.
Est-ce qu'il est possible de répondre à cette question?
Franchement, non. Si Vladimir Poutine était raisonnable, il n'envahirait pas l'Ukraine. Une nouvelle guerre en Europe entraînerait de nouvelles sanctions infiniment plus dures contre la Russie. Or, ces sanctions, contrairement à ce qu'on dit souvent, sont très efficaces. Elles pèsent sur le régime et sur l'économie russe. Mais Vladimir Poutine n'est pas un homme raisonnable. Il semble convaincu que s'il n'envahit pas maintenant l'Ukraine, il ne pourra plus jamais le faire, car depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, les États-Unis arment et aident l'Ukraine comme jamais. Quant à l'Europe, elle a resserré les rangs à Bruxelles contre une Russie qualifiée d'agresseur. L'Allemagne, de son côté, a ajouté les actes à la parole. Olaf Scholz vient d'expulser deux diplomates russes accusés d'espionnage. Et il a aussi sorti l'arme fatale, le fameux gazoduc Nord Stream 2, vous savez, celui qui relie les champs gaziers russes à l'Allemagne et auquel les Russes tiennent tant. Eh bien, il n'entrera en service qu'au printemps, si et seulement si les Russes sont sages et raisonnables. Reste à savoir si ça suffira.
Anthony Bélanger, ses histoires du monde, à retrouver sur franceinter.fr.
France Inter.